Un mix de blues et de rock'n'roll, voilà le secret d'une révolte réussie. Quand Lech Kowalski est arrivé en plein cœur de la France dans l'usine d'équipement automobile GMES menacée de fermeture, il a senti, dit-il, qu'un concert exceptionnel allait s'y donner. Il le fut. Paroles inventées par des salariés poussés au-delà des limites du supportable, musique écrite par des êtres humains déterminés à bouleverser toutes les règles, y compris celles de la lutte, et comme le son était suffisamment fort pour attirer les médias nationaux, le concert a résonné dans le pays tout entier. Il était là, caméra en main, composant son film grâce au lyrisme déchaîné de ces hommes et de ces femmes, en retrait, mais avec eux. Je viens de vous lire le synopsis du documentaire « On va tout péter » réalisé par Lech Kowalski. Il était diffusé mardi dernier au Grand Club et j'imagine que la période que nous traversons n'est pas étrangère à la foule qui était massée dans le cinéma ce soir-là. Sur le site d'Allociné, à la rubrique « Secret de tournage » sur la page de « On va tout péter », il y a ceci décrit. Le tournage d'On va tout péter s'est déroulé en deux temps. La première partie a été tournée à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, où Lech Kowalski s'était déjà rendu 8 ans plus tôt pour filmer Sodimatex, une usine d'équipement automobile que ses salariés menaçaient de faire exploser. Le réalisateur n'avait rien fait de ses rushs et envisageait de revenir à Crépy-en-Valois pour observer ce qui était advenu aux anciens salariés. Il se souvient. Puis un matin, ma productrice a entendu à la radio que des salariés menaçaient de faire péter leur usine à la souterraine dans la Creuse. Exactement ce qui s'était produit 8 ans plus tôt dans l'Oise. J'ai alors eu l'idée d'emmener deux anciens salariés de Sodimatex avec moi à la souterraine et c'est là qu'a débuté, durant 7 mois, la deuxième partie du tournage. Et la productrice en question était là, à Mont-de-Marsan, la semaine dernière, à l'occasion de la projection. Avec Odile Allard, c'est son nom, nous avons donc discuté des outsiders que Lech aime tant filmer. Nous avons parlé d'humanisme et de consommation et bien sûr de la situation politique en France aujourd'hui. Ce que j'ai voulu savoir dans un premier temps, c'est ce que nous disait un documentaire comme « On va tout péter » revenant sur des mois de grève et des situations précaires avec des images tournées en 2017, bien avant le début du mouvement des Gilets jaunes et avant la grève de demain, jeudi 5 décembre, qui semble fédérer du monde dans tous les secteurs d'activité.
D'accord, vous voulez dire qu'est-ce que ça dit des gilets jaunes? Alors, on dit souvent que c'est un préquel, pour utiliser un terme de cinéma. Non, en fait, ça montre bien que c'est quelque chose qui était sous-jacent et des problèmes qui existaient déjà, quoi. Les gilets jaunes sont arrivés après, mais c'est vrai que c'est rigolo. En même temps, on voit bien dans le film, par hasard, ils occupaient déjà un rond-point. Et, bon, voilà. Et les revendications, il y en a qui sont communes avec les gilets jaunes, même s'ils ne sont pas tous devenus gilets jaunes. Et il y a aussi des différences dans les revendications. Mais il y a une colère et... voilà, qui était déjà là et qui a engendré les gilets jaunes après. Et pour le 5, je sais pas, moi j'ai l'impression que cette colère, elle gronde partout où je vais. Dans les débats, tout le monde me parle d'utiliser la violence. Donc je pense que, ouais, il faudrait un peu calmer les choses parce que je sais pas où on va.
Ces hommes et ces femmes, ces ouvriers et ouvrières, ces révoltés qui osent l'affirmer, ont fait l'objet de nombreux films, fictions ou documentaires. J'en veux pour preuve la saga des Conti, We Want Sex Equality, Merci Patron, En Guerre ou plus récemment Je veux du soleil, sans oublier Tout va bien de Godard ou Dockers de Ken Loach. Alors pourquoi on filme ça?
Pourquoi on filme ça? Ouais, parce qu'il y a un côté un peu rebelle qui est... Je pense que les artistes, c'est des gens qui sont quand même un peu... on va dire hors routine, hors train-train quotidien, et que donc du coup, forcément, ces mouvements de rébellion, c'est quelque chose qui les attire, quoi, et qu'ils ont envie de filmer. En plus, chez les GMS, il y avait une solidarité qu'on voit plus nulle part ailleurs, et ça, c'était extrêmement attirant, quoi. C'est à l'époque du chacun sur son réseau social et devant Netflix, c'est quand même assez incroyable. Donc, bon, c'est aussi parce que c'est vrai qu'ils étaient pour la plupart depuis très longtemps dans cette usine. C'est quelque chose qui, je pense, n'arrivera plus maintenant avec le monde du travail tel qu'il est. Donc pour ça, oui, il y aura un changement, une régression dans tout ce qui est le monde du travail, quoi. Les lois sociales, je pense qu'on est dans une période de régression.
vous passez 30 ans dans une usine ou 40 ans, vous savez faire quelque chose dans cette usine, vous êtes quelqu'un dans cette usine. Mais sorti de l'usine, vous ne savez plus rien faire. C'est toute notre vie, c'est-à-dire.
Vous venez d'entendre un extrait du documentaire « On va tout péter ». Et dans ce fameux documentaire, il y a des moments où le réalisateur, Lech Kowalski, s'autorise des commentaires. L'un d'eux m'a particulièrement frappé. C'est une phrase qui disait quelque chose comme « Il n'y a plus d'humains, il n'y a plus que des consommateurs ».
Ben ouais, je crois que malheureusement c'est assez vrai. On est tous des consommateurs et il va falloir... pour la planète, qu'on se débarrasse du capitalisme qui tue les gens et qui tue la planète. Et on ne peut pas continuer à consommer comme ça. C'est juste pas viable. On n'a pas assez de ressources pour ça. Faut qu'on arrête, faut qu'on stoppe. Et c'est vrai qu'on voit très bien que c'est compliqué. Le samedi, vous allez dans n'importe quel centre-ville... C'est la folie. Là, le Black Friday, je sais pas, c'est un truc importé des États-Unis. Je sais même pas pourquoi on fait le Black Friday. Ça n'a rien à voir avec notre culture, mais on est à fond tous là. Enfin, tous, pas moi, mais je veux dire, tous les magasins là, ne parlent que du Black Friday qui a aucun sens en France. Mais bon, voilà, à part de consommer. Ouais, je crois que... On n'est pas prêt de ralentir. Puis en plus, on est poussé à consommer parce que bon, on a un ordinateur. Au bout d'un moment, il s'arrange pour que ce soit obsolète, qu'on soit obligé de le changer. Enfin, l'obsolescence programmée, tout ce genre de choses. C'est un système qu'il va falloir arrêter. C'est juste pas viable. Donc voilà, il va falloir moins consommer, consommer mieux, je pense. Consommer du durable, consommer oui, des choses... bien faites, bien construites et qui sont faites pour durer longtemps.
Mais paradoxalement, quand même, l'humanité dans ce documentaire, c'est la chose qui ressort en premier.
C'est clair. Pourquoi paradoxalement ?
Parce qu'il dit il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus que des consommateurs.
Il ne dit pas qu'il n'y a plus d'humanité, il dit que les gens sont devenus des consommateurs. Et que c'est difficile pour des consommateurs de se rebeller. Et parce que bah c'est vrai qu'on est aussi dans un monde où en fait on est face à des multinationales auxquelles c'est compliqué de s'opposer, quoi, parce qu'ils ont les pouvoirs de leur côté. Enfin, c'est un espèce de rouleau compresseur auquel on a du mal à savoir par quel bout les prendre pour stopper les choses, quoi. Et du coup, ça rend aussi les gens... impuissants, quoi. Enfin, ils se disent, ça sert à quoi, on n'y arrivera pas. Ce qui est faux, puisque, bon, par exemple, les GMS, on peut penser que, voilà, c'est des gens qui n'ont aucun pouvoir et qui n'auraient pu rien faire. Bon, ils se sont rebellés, ils ont quand même obtenu de sauver 120 emplois sur 277. Ils auraient pu ne rien faire et en avoir zéro. Voilà, après, dès qu'ils bougent quelque part, tout le monde est flippé. Ils sont venus à Cannes à 50. Moi, la police m'a appelé tout de suite. Ouh là là, c'est pas possible qu'ils viennent. Ils vont faire tout péter sur la Croisette. Ils vont s'allier aux gilets jaunes locales. Mais je leur ai dit, mais basta là, quoi. Ils viennent juste passer 2 jours sur la Croisette à se faire plaisir, ce qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie, et que c'est leur film et que c'est un moment de plaisir, quoi. Mais ça a été toute une histoire. Il a fallu qu'on prenne quelqu'un des renseignements territoriaux, parce que maintenant ça s'appelle territoriaux, qui nous suivent toute la journée, parce qu'ils avaient peur que, je sais pas, qu'on fasse péter la Croisette. Et puis il y a en plus un arrêté spécial pendant le Festival de Cannes, c'est interdit de faire une manif sur la Croisette. Donc voilà, ils étaient hyper inquiets, qu'ils viennent en groupe avec des banderoles. Bon, finalement, d'ailleurs, ils sont venus en groupe et on est passé avec des banderoles parce qu'on était accompagné de quelqu'un des renseignements territoriaux. Donc c'est assez drôle. Mais du coup, c'est pour ça, on s'aperçoit quand même que 277 personnes, enfin, ils sont même pas, il y en a, enfin, à Cannes, ils étaient 50, et ben ils arrivent à faire peur. Donc je veux dire, le pouvoir, enfin. Faut pas croire, des fois juste une personne ça suffit pour changer les choses, quoi.
Et aujourd'hui, hein, on est en train de revendiquer, hein, le droit de travailler, hein, et de vivre, parce que là on est en train d'engraisser des gros porcs.
Et c'est ainsi qu'est arrivée une question concernant le caractère humaniste de ces documentaires. et donc forcément une réponse en rapport.
Ben oui, en fait, l'objectif du documentaire, en quelque sorte, c'était de montrer que bon, c'est pas une usine qui ferme, c'est pas juste une usine qui ferme, on s'en fout. C'est des gens derrière, c'est des vies qui sont massacrées. Là, hier, il y en a un qui est décédé, qui avait 37 ans. Parce qu'il a perdu son boulot, ce qu'il n'est pas arrivé à s'en remettre. Je veux dire, c'est d'une violence incroyable. Et c'est des vies qui sont massacrées. C'est des gens qui ne peuvent pas, contrairement à ce que certains disent, se réinventer et tout ça. Mais se réinventer, c'est hyper compliqué quand ça fait 30 ans qu'on bosse dans une boîte, qu'on a une maison, qu'on a une famille, qu'on a une femme qui travaille dans le même endroit. On ne va pas bouger demain matin avec toute sa famille et sa maison. Enfin, c'est complexe. Donc oui, c'est pas juste un chiffre, quoi. C'est des gens derrière, c'est des vies qui sont massacrées. Et c'est vrai qu'avant de faire ce film, on était allé à la Sodimatech. C'est notre idée, c'était de voir ce qui se passait. À l'origine du film, notre idée, c'était de voir ce qui se passait 8 ans plus tard, une fois que l'usine est fermée. Ben, on est allé là-bas 8 ans plus tard. Je peux vous dire que c'était pas beau à voir. Il y en avait qui s'étaient suicidés, il y en avait qui avaient eu des cancers, il y en avait eu qui étaient bien sûr dépressifs. Les trois quarts, ils n'ont pas retrouvé de boulot. On parlait du sujet, ils en pleuraient encore.
Parce qu'on voit dans le film l'investissement, et parce qu'ils passent des mois entiers juste à faire en sorte que les choses avancent, que la situation se débloque.
Ouais, voilà. Ils ont ce qu'ils ont de très fort les GMS, c'est que ils lâchent rien, mais ça fait je sais pas, ça fait 14 ans qu'ils se battent, ça fait depuis 2004 qu'ils ont commencé, parce qu'ils ont été repris, enfin bon, depuis que l'entreprise n'est plus une entreprise familiale et que ça a été pris par des groupes, des fonds de pension, ça a toujours été en quelque sorte une galère. Et donc ils se sont battus, mais ils n'ont pas fait que, enfin c'est pas que négatif, ils ont fait des propositions, ils ont essayé de trouver des solutions, mais à chaque fois on les a balayés et voilà. Et leur force, c'est de jamais lâcher, en fait. Ça, c'est assez incroyable aussi. Et leur solidarité, c'est vrai qu'ils disent que c'est une famille, et c'est vrai, c'est une famille. Ils ont une solidarité entre eux qui est rare de nos jours, malheureusement.
Des images, des témoignages, des personnes qui racontent une frontière entre le peuple et ses représentants.
Et madame, je ne suis pas le Père Noël. Je ne suis pas le Père Noël.
Ce qui est assez incroyable, c'est vrai, c'est qu'ils n'ont jamais eu d'aide des politiques, quoi. Enfin, très très peu. Il y a quelques politiques locales qui les ont soutenus, mais les trois quarts, ils font pas leur boulot face aux multinationales. En fait, ce qu'il faudrait à l'heure actuelle, c'est des pouvoirs politiques forts. Mais en fait, on a des pouvoirs qui sont quasi inexistants et qui aident juste les multinationales à exister. Mais c'est tout le contraire qu'il faut. C'est des gens qui s'opposent, qui mettent des lois, qui luttent contre la fraude fiscale. Enfin, les vrais problèmes, au lieu de nous bassiner toute la journée avec les faux problèmes, les petites gens qui fraudent dans les coins. Enfin, c'est ridicule, faut s'accuser. Mais par contre, voilà, ils s'attaquent jamais aux vrais problèmes parce que c'est trop difficile, quoi. Donc c'est plus facile de s'attaquer aux petits gens.
Le mec qui perd son boulot dans un département comme la Creuse, on n'est pas à Lyon, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Paris, là. Il sait que en ayant 50 ans de moyenne d'âge, où voulez-vous qu'il retrouve du boulot? C'est vrai.
Pour clôturer cet entretien avec Odile Allard, je lui ai simplement demandé s'ils avaient une idée derrière la tête au départ, quand ils ont commencé à tourner, ce qu'ils avaient cherché à faire avec ce documentaire.
Ben, en fait, on ne veut jamais rien faire au démarrage, en fait. On part, on rencontre une réalité, on la filme et on voit où elle nous amène. On n'a pas d'idée préconçue, en fait. Enfin, l'idée du démarrage, je vous disais, c'est de retourner à la Sodimatech, c'est voir ce qui se passait 8 ans plus tard. 8 ans plus tard, ils étaient toujours au prud'homme et c'était la merde. Et c'est souvent comme ça, malheureusement. Mais il n'y avait pas d'objectif plus clair que ça, puisque nous, en tout cas, la manière dont on travaille, quand on fait un documentaire, on part, on filme, et une fois qu'on a filmé, qu'on estime que voilà, on a filmé toute l'histoire, après on invente l'histoire au montage avec ce qu'on a. On n'a pas d'idées préconçues, puis on va faire les images pour illustrer les idées préconçues. On va sur le terrain, on voit ce qui se passe, on filme, et après on essaye d'en faire une histoire qui fasse un film. Voilà. C'est notre manière de travailler.
Et donc il les a accompagnés là sur des mois et des mois.
Ouais, il les a filmés pendant plus de 10 mois. tous les jours, quoi. Ce qui est quand même, voilà, c'est un gros boulot. C'est un gros boulot que pas grand monde ne fait. Mais c'est aussi ça pour faire des documentaires, enfin des films qui montrent vraiment la réalité. Il faut être là pendant un bon moment de réalité. C'est pas en venant 3 jours ou 2 heures qu'on peut comprendre ce qui se passe, quoi. C'est complexe. Tous les sujets sont finalement assez complexes. Donc voilà, ça requiert du temps, de la patience. Et le réalisateur a passé énormément de temps à filmer. Voilà.
Il
s'est fait bousculer aussi, puisqu'effectivement, il s'est fait arrêter à Guéret. Ah. Il a été mis en garde à vue pendant qu'il filmait, puisque justement, au bout d'un moment, qu'il filmait les services territoriaux qui étaient là aussi à l'usine tous les jours, avaient un peu décidé qu'il y en avait marre qu'il filme et qu'il fallait qu'il arrête de filmer. Puis bon, c'était au moment, une fois que la société avait un repreneur, Macron, enfin tous les politiques avaient décidé que maintenant, voilà, fallait que les ouvriers se calment, il y avait un repreneur, c'était fini. Or, comme eux, il n'y en avait qu'une partie qui était reprise et puis qui voulait quand même une supralégale pour les autres, ils ne sont pas arrêtés. Et du coup, ils ont essayé de freiner tout le monde en envoyant les flics. Et nous, en fait, ils ont arrêté l'EC, ils l'ont mis en garde à vue sous un espèce de faux prétexte pour essayer de le stopper. Mais là où ils ne sont pas compris, c'est qu'en fait, il y a eu un énorme soutien. Il y a eu 400 réalisateurs qui ont signé une pétition, des articles dans la presse de partout et dans le monde entier. Parce qu'en fait, l'EC, ses films, ils vont dans tous les festivals du monde entier. Donc son texte qu'il a écrit, il était traduit en italien, en espagnol. Et donc, en fait, au final, ils se sont dit « Oula, zut, c'est contre-productif ». C'était pas le bon choix. Et donc, du coup, après, bon, il y a eu on a été quand même convoqué et l'EC risquait 2 ans de prison et 35 000 euros d'amende, ce qui n'est pas rien. Mais bon, on a pris 2 avocats et puis le jour de l'audience, ils nous ont dit on vous donnera une date. Et puis en fait, ils nous ont écrit qu'ils abandonnaient les poursuites parce que de toute façon, ils n'avaient rien. Et ils sont aperçus que ça ne pouvait pas tenir le choc, leur histoire. Mais bon, il a quand même fait 24 heures de garde à vue. Mec, il a filmé en Afghanistan, il a filmé dans des endroits quand même assez dangereux de ce qu'on pourrait imaginer. Ben non, c'est en Creuse à Guéret qu'il a fait 24 heures de garde à vue.
Et ça aussi, ça en dit long sur l'État.
Ça aussi, ça en dit long sur Macron et sa politique, ouais, et sa répression policière. Et aussi son attitude vis-à-vis des journalistes, parce que quand même maintenant il y a énormément de journalistes qui sont empêchés, qui sont arrêtés, enfin avec le mouvement des Gilets jaunes, là, il y a eu énormément de journalistes qui ont été blessés, qui ont été malmenés, enfin voilà. Donc l'EC était un peu précurseur aussi de ça.
Je vois bien que malheureusement sur le visage de certains, les lettres sont tombées et que la vie va changer demain. Alors je le répète, c'est pas fini. Moi, représentant du personnel, je sais pas quand ma lettre va tomber. Mais qu'elle tombe ou qu'elle tombe pas, c'est pas le problème. Je serai quand même toujours du côté de ceux qui vont être licenciés. Même si je suis gardé, ça changera rien.
L'indemnité supralégale qu'évoquait Odile Allard à l'instant est une indemnité versée aux salariés supérieure à celle qui est exigée par la loi. Elle est négociée par le salarié avec l'employeur. On peut parler d'indemnité supralégale dans plusieurs cas, lors d'un licenciement, d'une rupture conventionnelle ou d'une transaction. Et c'est ce que réclament les ouvriers de GMS tout au long du documentaire. On va tout péter, c'est 1h49 de film qui relate cette aventure humaine, dont la première mondiale s'est effectivement faite au Festival de Cannes, dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs.